podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Aux Frontières des Séries et des dossiers d'Aux Frontières des Séries. Ashes to Ashes est une série britannique de 3 saisons de 8 épisodes chacune. Elle a été créée par Matthew Graham, Tony Jordan et Ashley Fraoa. Elle a été diffusée sur la BBC One de février 2008 à mai 2010. Elle reste inédite sur les territoires francophones. Ashes to Ashes, si ce titre vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'agit d'une chanson de David Bowie, éditée sur l'album Scary Monsters de 1980, une chanson de David Bowie qui sert de titre à une série, ça vous dit bien quelque chose. Ça aussi c'est normal, Ashes to Ashes est la suite de Life on Mars, aussi un titre de Bowie. Le choix de la chanson pour cette suite peut paraître judicieux, en effet, Ashes to Ashes, la chanson, est elle aussi une suite de Space Oddity, puisque le personnage de Major Tom y revient. Dans Ashes to Ashes, le célèbre astronaute dont Ground Control avait perdu la trace revient. Il est en plein délire, coincé avec un ami important et un junkie. Une manière de tuer les idoles en quelque sorte. Bowie a déclaré que Ashes to Ashes était sa manière de tirer un trait sur les années 70. Vous allez comprendre le retour du héros, le délire, le fait d'être coincé avec un ami important, le fait de tuer ses idoles et le fait de tirer un trait sur les années 70 et dont Life on Mars prenne sens dans cette suite et fin. Et pour évoquer cette série, Sarah Sepulcre, bonjour.
Bonjour.
Et pour en discuter avec nous, Sébastien Porcu, bonjour.
Bonjour.
Alors Sarah, le retour du héros, cela signifie-t-il que Sam Tyler est de retour ?
Eh ben non, pas Sam, donc voilà, je vous le dis. Pas besoin de regarder si vous étiez amoureuse de Sam. Mais par contre, le principe de base de Life on Mars, oui. Alex Drake est, malgré son prénom, c'est une femme, donc c'est pas un homme. Alex Drake est une experte en profilage criminel à Londres. Et lors d'une intervention, elle est enlevée par un criminel, il lui tire dessus. Et elle se retrouve en 1981, exactement comme Sam Tyler, dans la première série, avait un accident de voiture et était téléportée en 1973. Les références à Life on Mars, il y en a plusieurs, et notamment parce que Alex a étudié le cas Sam Tyler.
Donc le personnage en lui-même n'est pas présent, mais on l'évoque.
Voilà, tout à fait. Je vous spoil un peu, mais c'est pas très grave. En fait, il se réveille à un moment, et donc il se retrouve dans son présent, ce qui permet un peu de faire les connexions. Donc elle a étudié son dossier, puisque c'est une experte en profilage et c'est une experte en psychologie, et elle en fait régulièrement part quand elle se retrouve en 1981, et qu'elle se rend compte qu'elle est en train de vivre quelque chose de similaire ou de proche. En 1981, elle rencontre les personnages que Sam Tyler a rencontrés dans les années 70, c'est-à-dire le DCI Gene Hunt et les lieutenants Rick Erling et Chris Kelton. C'est moi qui dis lieutenant, c'est pas du tout ça dans la hiérarchie anglaise, hein, mais je traduis, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'ils ont été mutés de Manchester vers Londres et qu'elle les retrouve dans le Londres des années 80. Comme elle connaît le cas de Sam Tyler, elle se demande très rapidement qu'est-ce qu'elle fait là. Elle en conclut qu'elle est peut-être dans le coma et qu'elle doit se battre pour survivre et pour se réveiller et pour retourner dans son présent, qui est en l'occurrence 2008. Pourquoi 1981 ? Il y a plusieurs fils qui permettent de raccrocher Alex Drake à cette année-là. D'abord, elle retrouve le type qui lui a tiré dessus dans son présent, qui est présent aussi dans les années 80 et qui est à l'époque un jeune malfrat en devenir, Arthur Layson. Et ça fait écho à Sam Tyler qui lui aussi, dans les premiers épisodes, retrouvait le serial killer qu'il était en train de traquer dans son présent, pas encore serial killer, dans les années 70. Ensuite, elle va croiser ses parents en 1981, c'est en fait l'année de leur mort, leur voiture explose et ils brûlent dans leur voiture et elle se donne comme mission d'essayer d'empêcher la mort de ses propres parents. Et là aussi, ça fait écho à Life on Mars où Sam Tyler croisait de temps en temps sa mère et pouvait un peu renouer aussi avec son passé, voire avec lui-même d'ailleurs. Les liens aussi avec Life on Mars, ce sont des espèces de retours récurrents. Alors ici, c'est le clown Ashes to Ashes dans le clip vidéo de David Bowie. Il est habillé en clown un peu Pierrot triste comme ça. Eh bien, ce clown hante Alex Drake. On ne sait pas très bien quel est son rôle au début, puis les choses s'affinent un peu. l'année 81 aussi intéressante. On va vite comprendre que les saisons sont structurées autour des années. La première saison, c'est 1981. Et cette année 81 est importante puisqu'on en parle dans la série. C'est l'année de la première campagne électorale de Margaret Thatcher qui apparaît constamment dans le récit.
Au-delà du fait que y a pas mal de rapports entre Ashes to Ashes et Life on Mars, on est quand même au-delà d'un simple copy-paste.
Ah oui, tout à fait.
Parce
oui.
que là, de ce que tu nous dis, on a l'impression qu'on a pris les éléments de Life on Mars et que l'on les a reportés en 1980.
Le principe narratif est vraiment typiquement le même et on retrouve les mêmes personnages. Donc forcément, on se retrouve dans un univers qui est connu quand on a vu Life on Mars.
Mais pas tout à fait le même.
Mais pas tout à fait le même, sinon ça aurait aucun intérêt. Et surtout, ça se décroche petit à petit. La première saison colle très très fort à la première série et ensuite ça se détache un peu. Donc, par exemple, la saison 2, je vous l'ai dit, est axée chaque fois sur une année différente. On est en 1982 et là, le fil narratif change. En fait, on se rend compte qu'il y a une corruption au sein de la police londonienne avec une question forte pour Alex. Est-ce que Jean Hunt est un fripou ou est-ce qu'elle peut lui faire confiance? Et deuxième mission qu'elle va se donner, combattre la corruption dans la police métropolitaine. On va, cette saison-là, croiser un certain Martin Summers qui assèle Alex et qui semble savoir exactement qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait là, ce qui est très perturbant puisque normalement les personnages ne savent pas que le personnage en question vient du futur, entre guillemets, parce que c'est plus complexe que ça. Et donc se noue un peu un jeu avec ce personnage et je vous en dis pas plus sinon je vous spoil tout. Dans cette saison 2 aussi, l'hôpital et son coma commencent à être plus prégnants. Ça par contre, c'est vrai que c'était aussi proche de Life on Mars où on sentait que quand Sam Tyler était en opération, etc., il ressentait les effets dans son corps. C'est un peu le cas aussi. Et bizarrement, cette saison n'est pas celle qui porte la thématique du retour le plus. Donc bon, voilà. Et cette année-là, l'actualité, c'est la guerre des Malouines qui se déclenche et se termine d'ailleurs en 1982 sur une victoire de l'Angleterre. La troisième saison, 1983, un nouveau personnage apparaît, Jim Keats, la police des polices, et je ne vous dis pas pourquoi il débarque, sinon de nouveau je vous spoil. Officiellement, il est là pour laver la corruption de la police londonienne, mais on se rend vite compte qu'il est là surtout pour se faire Jean Hunt et l'accrocher à son tableau, de quel chasse on n'en sait pas trop au début, et on voit petit à petit les choses se dénouer. Et là, se pose la question du lien qui existait entre Jean Hunt et Sam Tyler. Et donc revient Sam Tyler. Et surtout cette question, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne vous dis évidemment pas non plus, sinon je vous spoil. Il faut savoir que cette série se termine sur une solution. On sait ce que nous racontait Life on Mars et Ashes to Ashes, donc c'est une solution en deux séries.
Il faut se souvenir que dans Life on Mars, la solution à la fin de la série était un peu ambiguë.
Ouais, était carrément ambiguë. Ici, c'est plus le cas. Ici, on sait où ils sont. On sait ce que c'est que ce monde, on sait si c'est vraiment 1981, 2, 3, 1973 ou si c'est autre chose. Et donc, il reste quelques questions non clarifiées, mais le principe global de cette série, en tout cas, devient assez clair à ce moment-là. Je vous propose d'écouter un premier extrait qui sera forcément en anglais, puisque cette série est donc inédite sur le territoire francophone. C'est le moment où Alex se rend compte que les trois gars qui viennent de débarquer pour la sauver sur une scène de crime, c'est Jean Hunt, Ray et Chris, et qu'elle commence à faire le lien. Et donc vous allez entendre la manière dont on les amène, la musique, etc., qui est très années 80. Et vous allez surtout vous rendre compte ensuite qu'elle se rend compte que c'est le délire et l'hallucination de Sam Tyler et que normalement elle ne devrait pas être dedans.
See? Completely unarmed.
You're going down, you scum.
This won't amount to a hill of beans, Mr. Hunt.
Blimey. My skirt was itched any higher. I could see what I had for breakfast. That Ray, cuff this Nancy Bird. Chris, look after the lady. Classiest pro I've seen all week.
Do you see Chris Skelton?
Roger that.
DS Ray calling. Gina.
My reputation precedes me.
Change out of a tenner for this one, Ray.
Definitely give her a tenner. Cracking pair of puppies.
Okay, focus. This is a subconscious construct induced by severe cranial trauma.
Flash his pig!
We only need a statement, love. And you.
My God. I can hear the wind in the trees.
It's truth. It's going to break into song.
This is a full sensory hallucination. My God.
Ooh, I don't know. Look at the way she's touching that car.
This happened to him. It can't happen to me.
You all right, darling?
Molly. She needs me.
Ce qui se passe aussi avec Ashes to Ashes, on l'a vu, c'est une série qui fourmille énormément de détails. Donc, que ce soit des objets typiques qui reviennent, des musiques qui collent énormément donc à l'époque. Il y a le contexte aussi qui est là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement?
Ah oui, ça c'est une série, si vous avez été un gamin des années 80, c'est-à-dire moi, et si vous avez aimé les années 80, vous allez vous y retrouver à mort, y compris dans les bouclettes. Ouh là là, les bouclettes années 80. Bouclettes, je parle des cheveux, évidemment. Life on Mars était déjà une série qui était écrite sur la manière d'écrire des séries policières dans les années 70. Ashes to Ashes est aussi une série qui est écrite sur base des séries des années 80. Donc déjà ça, c'est assez drôle de ressentir et de retrouver pas mal de choses. Là, je vous parle bien des versions anglaises des séries et non pas des versions américaines qui sont assez différentes. Et notamment, c'est basé sur la sacro-sainte règle d'écriture de la tension sexuelle qui était en vigueur très fortement dans les années 80, pas que, entre deux personnages. Et la tension sexuelle ici est entre Alex Drake et Jean Hunt. Est-ce que c'est crédible? Parce que ceux qui ont vu Life on Mars se souviennent de Gene Hunt. Il a 50 ans, il est un peu gros, il est alcoolique, misogyne, homophobe, violent, très imbu de lui-même. Donc c'est difficile quand même de le voir comme un jeune beau. Hein, voyez, il est un peu l'affaire. Et en fait, oui. Et c'est ça la force de cette technique narrative des années 80. C'est qu'en fait, vous établissez par des petits jeux de regard et des petits trucs une tension sexuelle entre deux personnages et ça marche. Y compris pour le téléspectateur. En tout cas, moi, j'ai foncé à du 200% là-dedans. Forcément, ça adoucit un peu le personnage, mais il reste quand même lui-même. On crée l'ambiguïté, et pour créer l'ambiguïté, un ou deux regards suffisent, ou un ou deux mots dans un dialogue peuvent suffire pour introduire une ambiguïté, et ça marche à du 200%, je vous le dis. Dans les années 80, il y avait, j'ai peur de me gourer, mais Didi McCall, Eric Hunter, il y a eu un truc hein, quand même, ouais, je ne me trompe pas. Il y avait Remington Steele et Laura Holt, qui se marient d'ailleurs à la fin. Il y a les deux font la paire. Il y a David et Maddy dans Clair de Lune. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est surutilisé dans les séries policières. Alors pas que dans les années 80, parce qu'Emma Peel et John Steed, c'est un peu ça. Forcément, si je vous parle de Mulder et Scully, de Bones, etc., on y est aussi encore maintenant. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est tout à fait pareil que dans les années 80? Non. Parce que dans les années 80, les allusions sexuelles explicites, c'était hors focus. Là, on en a tout le temps. Parce que Gene Hunt, étant ce type machiste, violent, imbu de lui-même, ne peut pas s'en empêcher. Ce qui donne de temps en temps des remarques qui sont, moi je trouve, assez jouissives, mais que j'imagine la plupart des féministes n'aimeraient pas beaucoup. Et notamment, Rick Hunter n'a jamais dit à Didi McCall, en tout cas pas dans un épisode que j'ai vu le dimanche après-midi sur TF1, qu'elle lui filait la trique au milieu d'une scène de crime. Donc,
je confirme.
Ce qui arrive dans Ashes to Ashes. Alors, on a deux registres dans cet élément-là. D'abord, sexuel, parce que très clairement et très souvent, il lui fait des avances. Et puis, tendre, avec des regards, des attitudes ou un certain jeu sur l'alchimie en tant que telle, ce qui est forcément toujours déçu, sinon c'est pas drôle. Et donc, le spectateur est toujours frustré. Et je ne vous dirai certainement pas comment ça se termine. Années 80, le générique aussi, quand vous verrez le générique, si vous regardez un jour, vous direz « Ah oui, là, on sent Rick Hunter et on sent... »
Ça, c'était un reproche qu'on avait fait au générique de Life on Mars, qui était très éloigné finalement de l'esthétique des années 70, mais aussi très éloigné de l'esthétisme des séries des années 2000. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, c'est bien qu'ils aient rectifié le tir ici.
C'est un très très beau générique, moi je le trouve fabuleux. Et justement fabuleux parce qu'on se souvient des codes des séries années 80. Il y a plein d'autres choses, hein, les freins qui crissent, les voitures rapides, les enquêtes un peu envoyées, boulées, etc. Alors il n'y a pas que les séries, tu disais tout à l'heure il y a plein d'objets, etc. D'abord Alex Drake, 3 saisons, 3 coiffures. Petit caniche, la première saison, ma maman a eu cette coiffure-là, je me dis c'est pas possible, mais bon si. Les boucles un peu plus évasées à la Didi McCall dans la deuxième, et alors elle ressemble à Christine Scott Thomas dans 4 mariages et un enterrement dans la troisième, ce qui est quand même assez drôle. Si la garde-robe est un peu limitée dans la saison 1, elle a surtout une veste en cuir blanc. Ensuite, on a droit à tout. Le fuchsia, le bleu électrique, les pulls avec des motifs géométriques, le brillant.
Une espèce de mohair, oui, bien
exactement,
poilu.
Exactement. Mmh. Les imprimés affreux, les accessoires en plastique coloré. Enfin bon, moi j'adore évidemment. Les bottes à talons aiguilles, tout y passe. Et ce qui est intéressant par rapport à ce registre années 80 que tu évoquais tout à l'heure, c'est Chaz aussi. Chaz, c'est un personnage qui n'existait pas avant. C'est une jeune agent qui... le soir, visite les milieux underground. Et donc, elle amène tout ce côté un peu punk rock qui était dans les habits et qui est aussi dans la musique. Et c'est en plus un milieu underground, donc on y croise aussi le milieu homosexuel et Boy George, par exemple, puisqu'elle interpelle à un moment quelqu'un comme étant Boy George. Alors, dans tout cet univers années 80, il y a la musique. Évidemment, déjà, il y a Bowie, puisque c'est le titre de la série. Il y a les Clash. Il y a Roxy Music, Madness, Cyndi Lauper, Michael Jackson, enfin... Moi, j'ai eu l'impression, évidemment, de réécouter Nostalgie de cette époque-là, évidemment. Donc, voilà. Et enfin, il y a l'actualité. Je vous ai parlé de la campagne de Margaret Thatcher dans les années 80. Il y a les émeutes de Brixton en 80 aussi. Le mariage de Lady Di et du prince Charles, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, de voir à certains moments. On voit très bien qu'Alexei, comment ça se termine. Et on voit très bien comment les gens de l'époque pouvaient être tout fous et tout contents de ce mariage magnifique et de princesse. Bref, on a la guerre des Malouines, je vous l'ai dit, la victoire britannique. Et puis alors, on a une réponse. Il y a eu, dans les années 80, 83, un vandalisme d'un jardin très connu à Londres. On n'est pas certain de qui l'a fait, mais moi je peux vous dire maintenant, c'est Gene Hunt. Donc Gene Hunt va aller saccager sans faire exprès, en courant après un criminel, un jardin. Et puis on entend après dans les infos que ce jardin machin a été vandalisé. Donc il y a aussi des choses assez drôles comme ça. Ça, ça arrivait déjà dans l'iPhone Mars. Donc quand on dit on reprend le principe narratif, on reprend les personnages, on a un peu ce jeu sur l'actualité. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça se ressemble assez fort. Il y a aussi le pont entre les deux mondes. Pour ceux qui ont vu les séries précédentes, ça passait par la télévision et la fille de la mire. Ici, ça passe aussi par la télévision, par les conditions physiques qu'elle peut ressentir. Et puis ça se dilite. La saison 3, on n'a plus nécessairement ça. Par contre, on commence à avoir des étoiles. Et on ne comprend pas très bien où ça nous mène. Et je ne vous dis pas d'ailleurs où ça nous mène.
Ça nous renvoie vers l'iPhone Mars US, là.
Oui, donc, pas du tout.
Ça me rassure quelque part.
Pas du tout. Alors forcément, on a aussi les personnages. Et c'est ça qui est intéressant dans cette série. C'est de voir comment une série peut reprendre les mêmes personnages, mais en y adjoignant un nouveau personnage. Comment ça peut changer carrément l'alchimie du groupe. Donc ça, c'est aussi très intéressant de voir... Alors que Sam Tyler, il était un peu plus en retrait, il était plus en lien avec Annie, et les trois autres étaient un peu vus comme des flics bourrins, avec un peu Chris qui pouvait être un électron libre, etc. Ici, on n'a pas du tout cette alchimie-là. On a Gene Hunt, Alex Drake, avec cette tension sexuelle explicite. On a aussi Ray et Chris qui évoluent tout à fait différemment par rapport aux personnages. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment des personnages peuvent évoluer différemment quand on change un ou deux éléments. Et donc, quand on dit que c'est pareil, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on se retrouve en effet devant les mêmes personnages, mais déclinés autrement. Et on retrouve un vrai plaisir de les redécouvrir, finalement.
Tiens, justement, tu en parles. Comment est-ce qu'on explique que le personnage d'Annie n'y apparaît pas ? Simplement parce que le personnage principal est devenu une femme et que c'était compliqué d'avoir deux femmes sur le même plan, ou bien on n'en parle absolument pas ?
Alors on n'en parle pas, mais ils sont mutés. Les trois sont mutés et Annie n'est pas mutée.
Parce que ça restait quand même un personnage vraiment très symbolique de la première série.
Alors si je réponds tout à fait à ta question, je te dis ce qui se passe, donc je ne le ferai pas.
D'accord, ce sera à voir.
Voilà. Alors je vous propose d'écouter une dispute entre Gene Hunt et Alex Drake. Vous savez que l'alchimie et la tension sexuelle, ça passe aussi par les disputes de personnes qui sont censées se détester et qui, en se détestant et se disputant, en fait, font exactement l'inverse. Ils se retrouvent sur une scène de crime en pleine reconstitution. Alex essaye de déployer toutes ses connaissances en psychologie, donc elle remet le personnage, la victime, en contexte. Elle lui demande de fermer les yeux, de respirer tranquillement, de visualiser la scène. Des trucs qu'on voit tout le temps dans l'esprit criminel, finalement. Mais forcément, ça fait beaucoup rire Gene Hunt, qui trouve que c'est plutôt de la voyance qu'autre chose, parce que lui, il comprend pas du tout l'intérêt. Donc il y a déjà un peu ce jeu et cette opposition entre les époques. Et puis vous allez voir qu'à un moment, elle dit « le cerveau est un organe étonnant » et que Gene Hunt retourne ça, évidemment, de manière absolument fallacieuse. Et pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais, vous allez pouvoir percevoir la différence de traitement qu'ils peuvent avoir des victimes, ce qui est aussi assez symptomatique des deux personnages.
« Ok, breathe in and out. » Just take your time.
It's all just a blur. It's just a blur, really. It was over in a flash. It all happened so quick.
Okay, well, let's not worry about specifics. Just let the images wash over.
All I remember is that they had balaclavas with hoods up.
Okay, so these hoodies, what did they...
Hoodies? They're blaggers, not characters from Watch with Mother.
So you got out of the car and they're there. What did they say to you?
They were shouting stuff. I don't know. They just shot me and I blacked out.
Okay. Well, the mind's an amazing organ.
I've got an amazing organ.
It's capable of far more than you'd imagine.
Right again.
So, the car?
Yeah, Datsun, yellow. Yellowish. Brown.
Oh, God.
And I think the bullet... I remember the bullet passing through me, and then I was falling.
Okay, so you were shot, and then you were falling.
Yeah, and then it all went dark.
Is your sling uncomfortable, Gil?
No. It's got to be straight. It's got to line up with my badges.
Well, whilst we are tripping the light fantastic of your mind, can you recall anything else, like the registration of the Datsun?
Or Allegro. Might have been an Allegro.
What? You are joking me. I have got coppers over most of this city.
I'm trying to be useful.
For a ruddy All right, what about the tracksuit?
Blue. Yeah, blue. Or black. Black.
Oh, give me
They were a dark colour.
You're just confusing them now. You're going to cloud the memories.
Look, I'm trying... I so much want you to catch them. Everyone's given so much cash for Botswana, and they entrusted it to me.
Gil, this is what we're going to do. We are going to retrace your steps, OK? See if we can, during the regression, dislodge some hidden memories.
Yeah. And after that, we're going to make a study of some sheep entrails, see what we can learn from them.
Mais alors au final, la question que moi je me pose personnellement, c'est est-ce que Ashis a surpassé sa grande sœur Life on Mars?
C'est difficile de répondre à cette question, parce que à la fois, elles ont toutes les deux leurs forces et elles ont toutes les deux leurs faiblesses. Si vous réécoutez le dossier que j'avais fait de Life on Mars, j'aimais pas tout dans Life on Mars version britannique. Et j'aime beaucoup Ashis to Ashis et en même temps, je sens des faiblesses dans Ashis to Ashis. Par exemple, je trouve que les trois saisons étant tellement différentes, parfois on se dit oui, mais bon, quelle est la cohérence et l'unité? Il y a certaines choses qui sont expliquées par la conclusion, mais pas toutes. Et donc, on a parfois l'impression d'un univers un peu plus décousu. On a beaucoup moins que dans Life on Mars quelque chose de construit au niveau des rappels avec le présent. Dans Life on Mars, c'était beaucoup plus amené, beaucoup plus construit, beaucoup plus fréquent. Parfois, on a l'impression qu'Alex Drake elle commence à oublier finalement et puis ça revient. Donc il y a des choses qui sont moins construites, moins bien construites. Il y en a d'autres qui sont chouettes aussi. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce plaisir du retour du monde dans lequel on avait vécu, mais transposé 10 ans après, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai que finalement, c'est une formule qui est facile à adapter à un autre contexte. On prend les années 70, on prend les années 80. J'imagine qu'ils vont pas continuer. J'espère qu'ils ne vont pas continuer parce que ça s'essouffle, hein, mais les années 90, etc., etc. Avec des nouveaux personnages, finalement, ça revivifie le tout. Le principe aussi dans lequel je vais pas trop vous raconter est de finalement, et de plus en plus, revisiter l'histoire de ces deux séries. Et donc la manière de revoir les personnages, de revoir leur biographie et d'amener des choses nouvelles est aussi intéressante à ce niveau-là. Donc je dirais, c'est pas vraiment une question de dépasser sa grande sœur qu'une question de lui donner une suite et une fin qui sont à la hauteur. Et je pense que si on aime Life on Mars, on va probablement trouver beaucoup d'intérêt à Ashis to Ashis, sans pouvoir finalement mettre de hiérarchie. Moi, en tout cas, j'ai énormément de mal à pouvoir placer une hiérarchie entre les deux. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire. Il y a des gens qui détestent, en fait, Ashis to Ashis, donc c'est bon aussi à savoir. Et pour revenir sur cette clôture, qui est quand même importante, je vous en dirai rien. Elle permet parfois de comprendre certains trucs bizarres. Par exemple, c'est quand même bizarre... Dans les années 80, on s'embêtait pas trop avec ça. Mais qu'une équipe entière soit mutée d'une ville à l'autre, normalement ça arrive pas. On peut muter un commissaire, mais il n'y a pas de raison qu'on mute toute son équipe avec ou qu'ils choisissent d'en garder deux. Donc c'est la même équipe et la conclusion permet finalement de comprendre ça. Ils n'ont pas l'air si vieux. Hein. Il y a entre 8 et 10 ans entre les deux séries. Et ils n'ont pas l'air d'avoir tant vieilli que ça. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est les mêmes comédiens, etc. Mais... Personne n'a l'air de s'en inquiéter, mais cette conclusion elle donne un peu une idée là derrière. Puis il y a quand même des grosses conneries qu'ils font, qui normalement ne devraient pas rester impunis. Et ça, de nouveau, dans les années 80, l'éthique policière, par exemple, on s'en foutait, hein, dans les Starsky et Hutch, Baston, Atuva, et voilà. Vous allez me dire Starsky et Hutch, les années 70, mais... Et il y a des conneries qui restent un peu impunies, et puis ça apporte aussi quelques réponses par rapport à ce troublant personnage qui arrive dans la troisième saison, Jim Keats, qui nous amène vers une conclusion qui reste, moi, je trouve, convaincante. Moi, en tout cas, je trouve que ça fonctionne pas mal, avec quand même quelques manques, et je dois vous avouer que moi, je la sentais arriver, mais que des gens ont été très, très déstabilisés par cette conclusion.
Est-ce qu'on peut parler quasiment d'une conclusion un peu mythologique pour la série ?
Si je réponds vraiment à ça, je vous spoil à mort. On va dire qu'en tout cas, oui, c'est une conclusion qui se veut mythologique dans le sens de X-Files parfois ou dans le sens de série culte un peu. Je pense que c'est une conclusion qui voulait marquer un peu l'histoire des séries, on entend bien. Et c'est une conclusion qui joue effectivement sur quelque chose de bigger than life. La série US avait joué sur quelque chose de bigger than life aussi pour sa conclusion, mais on est dans un registre tout à fait différent ici. Des gens ont aimé, des gens n'ont pas aimé. C'est-à-dire que quand une série prend l'idée, la position de faire une conclusion, ça marche ou ça marche pas. Moi, je trouve que ça marche. Voilà. Vous verrez, vous lirez, vous comprendrez pourquoi, effectivement, on peut parler de mythologie et surtout pourquoi je vous en dis rien. Vous entendez, j'aime bien cette série. J'ai beaucoup aimé retrouver l'équipe et Gene Hunt, qui est un personnage que j'adore. J'ai trouvé des choses vraiment intéressantes, une alchimie différente avec Gene Hunt et entre les autres personnages. Je trouve que Philip Glenister, qui le joue, est absolument parfait. Les acteurs sont magnifiques dans cette série. Dean Andrews et Marshall Lancaster, qui jouent Chris et Ray, prennent toute leur ampleur dans cette série-ci, ça c'est intéressant. Et je trouve que celle qui joue Chaz, Montserrat Lombard, rafraîchit vraiment le casting par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. Le bémol est un peu Kelly House qui joue justement Alex Drake dans la première saison parce qu'elle n'est pas super convaincante dans la première saison et c'est beaucoup de critiques qui lui ont été adressées d'ailleurs à ce niveau-là. Et notamment quand elle est en des scènes de rapprochement avec un personnage masculin, elle a un petit rire un peu bête comme ça, on a envie de lui en coller deux et de lui dire « mais enfin, tu es une psychologue de la police, arrête quoi ». Et puis dans les autres saisons, ça va un peu mieux. Donc là, je trouve que ça se résorbe. Et donc c'est une série que moi, je trouve qu'il faut regarder. Si vous avez aimé Life on Mars, il y a des chances que vous allez aimer Ashes to Ashes. Et si vous n'avez pas vu Life on Mars, vous n'avez rien capté. Donc il va falloir reprendre tout depuis le début.
Voilà, je crois qu'on va clôturer ce dossier là-dessus. Je crois qu'on va fermer définitivement la parenthèse Life on Mars et consorts pour aux frontières des séries. Merci Sarah, merci Sébastien d'avoir été là et on se retrouve très très vite pour un prochain dossier.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.